pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Décembre 2020, au petit matin, Claude, Svink ainsi que 7 autres personnes se font interpeller simultanément aux quatre coins de la France et sont retenus 96 heures dans les locaux de la DGSI. 7 d'entre eux sont ensuite inculpés pour association de malfaiteurs terroristes. Aujourd'hui, nous vous diffusons l'émission Minuit décousu, produite et diffusée sur les ondes de Radio Canu le 19 janvier 2026. On entendra Claude et Svink raconter leur interpellation, leur garde à vue au 4e sous-sol de la DGSI à Levallois-Perret et l'incarcération de Svink à Fleury-Mérogis pendant 11 mois en attendant le procès. Ce, alors, qu'ils et elles cherchent à comprendre tant bien que mal à l'époque les tournants et les aboutissants de ce dossier monté de toutes pièces contre eux. Cette émission rentre dans le cadre d'un retour radiophonique sur l'affaire en vue du procès en appel qui se tiendra au printemps 2026. Bonne écoute.
Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique.
Le fait de décréter un couvre-feu.
C'est joli, ces souvenirs sont complètement...
Jusque quelle heure?
Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de souvenir, en fait.
Minuit. Décousu.
La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, Décines, Vénitieux, Lyon.
On est encore réveillés sur Canu.
Si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer... Ce serait mieux sans doute.
Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotique ou radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran.
Il est 23h23.
Fait débrancher ses oreilles du monde.
Il est 23h54.
Pour les rebrancher sur un autre.
La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi.
Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire? Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie?
Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi.
C'est Minuit décousu qui te parle.
On va se laisser porter dans la nuit.
Il est 3h.
La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
Il est 23h06, vous êtes à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est votre émission du mardi soir, minuit décousu.
Depuis 2001, le terrorisme est devenu un sujet de préoccupation politique majeure en France, comme dans tous les pays occidentaux. Avec lui est arrivée la figure du terroriste, une incarnation humaine de la menace barbare face à laquelle nous sommes tous et toutes sommés de faire bloc. C'est cette figure, le terroriste ou la terroriste, qui justifie des pelletées de lois dites antiterroristes, qui donnent plus de pouvoir à la police et autorisent toujours plus de surveillance de la population. S'opposer aux lois antiterroristes, chercher à comprendre comment le terroriste peut être aussi une construction policière et politique, comment l'antiterrorisme est un problème démocratique, ce serait être irresponsable et complice. Pourtant, depuis l'affaire de Tarnac en 2008 et surtout depuis l'état d'urgence en 2015, il est difficile d'échapper à l'usage politique du terrorisme comme moyen de répression des luttes sociales. Car c'est au nom de ce combat contre l'ennemi intérieur qu'on a vu se multiplier la surveillance de militants et militantes, les notes blanches, les arrestations spectaculaires, les gardes à vue à rallonge et les peines préventives passées à l'isolement. Tout cela, on le verra, fait système.
Mais quand l'antiterror frappe à la porte, quand on se réveille avec des flics cagoulés dans la chambre à coucher, le premier réflexe n'est pas de se demander si l'antiterrorisme est plutôt un régime de gouvernement ou une forme de biopolitique. Ce jour-là, on est saisi à froid, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on flippe comme toute personne qui se retrouve emmenée dans un lieu inconnu avec une cagoule sur la tête. On est vite initié à l'intense pression des policiers de l'antiterror en interrogatoire, aux intimidations, aux manipulations. On apprend à s'en méfier, à les déjouer, dans les locaux de la DGSI, puis parfois en prison. On devient attentif et attentive, on découvre que ce que ça fait d'être toujours sur ses gardes, d'avoir peur par un geste anodin, de nourrir un dossier qui tourne à vide, fait de preuves fabriquées où tout et n'importe quoi devient une arme par destination, où toute sa vie est décryptée pour dresser ce portrait d'effrayant terroriste. Et progressivement, on prend conscience de l'engrenage dans lequel on a basculé. Car il s'est mis en route bien avant l'arrestation, quand le récit policier a commencé à s'écrire sur fond de filature, de mise sur écoute, de mille et une surveillances.
Cette rencontre avec l'antiterror et son engrenage, c'est ce que les inculpés du 8 décembre nous racontent ce soir, dans le premier épisode que Minuit Décousu consacre à leur rencontre.
Vous nous avez invités à venir parler de l'affaire qu'on dit du 8 décembre 2020. Et du coup, on va en parler un peu de nos expériences personnelles par rapport à cette affaire, au procès, aux arrestations, et essayer de faire comprendre un peu à tout le monde de quoi il en retourne, même si c'est compliqué.
Et aussi, à quelques mois du procès en appel, du coup, on trouvait ça chouette de pouvoir reparler de l'affaire et voilà, et parler de l'appel à venir.
Zvink, comité de soutien Paris, et inculpé aussi.
Moi, c'est Clo, et comité de soutien Paris, qui a été arrêté aussi le 8 décembre 2020, mais relâché sans charge. Hey, don't you think it's
strange? Le 8 décembre, il y a eu une vague d'arrestations un peu partout en France, dans plusieurs régions de France. On va pas les citer parce qu'elles sont un peu longues, mais il y a eu 9 personnes arrêtées, qui ont passé 96 heures de garde à vue dans les locaux de la DGSI. Et à la suite de ces 96 heures, 7 seront inculpés pour association de malfaiteurs terroristes dans l'intention de s'en prendre aux personnes dépositaires de l'ordre public. Un truc à peu près comme ça dans le chef d'inculpation, une très longue phrase. Sur ces 7 inculpés, 5 seront en prison préventive dans différentes prisons d'Île-de-France.
RTL Soir
avec Stéphane Carpentier.
La suite du journal de Céline Landreau avec une opération antiterroriste assez inhabituelle puisqu'elle vise l'ultra-gauche. 9 personnes ont été interpellées, soupçonnées d'avoir voulu préparer une action violente.
Ces membres appartiennent à l'ultra-gauche selon l'expression du parquet antiterroriste et plusieurs étaient connus des services pour leur activisme radical. S'ils ont été arrêtés cette semaine, c'est en effet parce qu'ils auraient évoqué un projet d'attentat. Alors prudence, souligne une source judiciaire, on ne connaît pas à ce stade les cibles qui auraient pu être visé, ni le degré de préparation du groupe. Il faut également rappeler que la dernière affaire de terrorisme présumée liée à l'ultra-gauche remonte à 2008 et au groupe de Tarnac, soupçonné d'avoir saboté des lignes TGV. Le dossier avait fini en naufrage, policier.
On était en couple et on l'est toujours, donc au moins t'as un double témoignage. Ce sont deux personnes qui ont vécu l'arrestation. En gros, nous, c'était 6h du mat, elle entend du bruit, pensant que c'était des cambrioleurs. Et moi, je me lève dans la foulée, je vois des faisceaux lumineux dans le salon. Je me mets devant en gueulant, pensant que c'était des cambrioleurs, en mode « mais tu fais quoi ?» Enfin, je sais plus trop ce que je gueule. Là, je me fais attraper par l'épaule, jeté au sol, tiré par les dreads, et je me retrouve avec un fusil sur la tempe. Ça fait assez bizarre, de 6 du mat, donc déjà, ça te met un peu en état de choc. Là, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas.
Il y avait une dizaine de personnes, je dirais.
Ouais, c'était le GAO, groupe d'appui opérationnel, une antenne policière dédiée spécifiquement à la DGSI.
On pourrait comparer un peu au RAID, je pense, casque, fusée d'assaut, etc. Enfin, oui. Voilà, c'est le même.
Oui, des gros marmules cagoulés surarmés. Bon, là, il y a un peu de flou assez vite. Il y a le terme justement terreau qui vient, mais je saurais plus te dire exactement dans quelles conditions. C'est un peu bordélique. Enfin, sur ce moment-là, tu penses un peu, alors, oh, je suis en train de me faire braquer par des gens. Il y a plein de flics chez moi. Il y a mes chiens. Enfin, il y a ma copine. Enfin, Tu mélanges un peu tout dans ta tête à ce moment-là.
Bah déjà, on comprend assez vite. Oui. Il nous parle d'une perquisition qui a lieu en même temps, parce qu'on habite aussi des fois sur un terrain dans le sud de la France. Et au bout de, je dirais, même un quart d'heure, 20 minutes, il nous explique que cet endroit est perquisitionné en même temps chez sa mère. Et donc là, on rentre dans une deuxième dimension aussi, quoi. Parce qu'on se dit, waouh, ils sont en train de perquisitionner en même temps à 6h du matin un lieu à l'autre bout de la France. Il nous précise qu'on est mis en garde à vue à partir de cette heure-là, et il nous demande les choses habituelles. Est-ce qu'on veut voir un médecin ? Est-ce qu'on a un avocat ? Un des trucs assez dingues, c'est que ça a duré une douzaine d'heures, cette perquisition. Donc de 6h du matin, j'ai été emmenée à 14h dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret. Mais de ton côté, je sais que t'es restée jusqu'à quasiment
19h, en tout cas.
Ok, donc voilà, c'était vraiment une très très longue perquisition. Il faisait très froid, tout était grand ouvert, parce qu'il y avait une quarantaine de personnes qui faisaient des allers-retours dans la maison. Ils ont attendu plusieurs heures avant de nous habiller, donc on est vraiment congelés dans le froid. Pas d'eau, pas de nourriture pendant tout ce temps-là. Et voilà, juste des personnes qui déambulent. Moi, j'ai pas assisté aux perquisitions en elles-mêmes. J'étais mise de côté, quoi. Et c'est pour ça que quand ils voulaient perquisitionner différentes pièces, à un moment, ils ont décidé de m'emmener dans les locaux pour pas qu'on puisse se croiser.
On n'est pas sur une perquisition, on va dire, standard, de flics standard qui retourne tout chez toi. C'est extrêmement méticuleux. T'as une personne dédiée qui part vraiment du début à la fin, fait pièce par pièce, recoin par recoin. Et d'ailleurs, il a lâché sa petite larme parce que, en gros geek que je suis, il a dû ouvrir et vérifier un peu plus de 1000 mangas à l'époque. C'est un bon moyen de défense, les bouquins, du coup, par rapport à la DGSI. Ça fait beaucoup de choses à ouvrir et vérifier. Le moindre disque dur, la moindre clé USB est scellée. Donc un scellé, ça met une vingtaine de minutes à faire, le temps qu'ils aillent chercher le carton adéquat, le tampon, etc. Parce qu'on bosse tous les deux dans le spectacle. Enfin, on a toujours bossé. À l'époque, j'étais artificier. Elle bosse dans le cinéma. On a toujours bossé dans le spectacle. Donc autant te dire que des disques durs et des clés USB d'images et de... Enfin, comme vous à la radio, vous en avez des kilomètres, des... Donc ça fait beaucoup de scellés. Donc ouais, ça a duré toute la journée pour perquisitionner chez nous. Jusque trois quarts de la journée, c'était déjà écoulé. Et ils voyaient qu'ils n'auraient jamais le temps de tout faire. Ça devenait déjà un peu plus menaçant, c'était un peu moins dans les normes. Là, tu vois, il y avait les cagoulés. Un qui me dit clairement, ça serait que de moi, tes chiens, je les aurais butés. T'as eu de la chance. Et ça commençait à être un peu plus violent, parce qu'ils étaient agacés, ils en avaient marre d'être là. Nous aussi, voilà. Moi, j'ai eu le passage des mineurs aussi, vu que l'artificier à l'époque. Donc, le démineur qui a fait le tour de la maison complet avant, pour vérifier qu'il n'y avait rien de dangereux. Et oui, si, c'était l'après-midi aussi, où il y a eu ce fameux petit montage avec des déchets pyrotechniques. Parce que j'avais plein de merde. Enfin, je faisais des effets spéciaux, j'avais toujours plein de déchets, des trucs qui traînaient. Et ils ont mis carrément fait une petite mise en scène, gentiment, avec des déchets pyro, des piles usagées, des vieux morceaux de tubes d'artifice, des inflammateurs usagés.
Interpellé, action violente. Couteau et des fusils de chasse, radical.
Avec un petit carton légèrement déchiré en disant « Ah, c'est une préparation d'une bombe ». Bon, le carton déchiré s'avère que c'était un meuble en kit. C'est pas grave, hein. Fallait juste regarder ce qu'il y avait dans le carton. Tout irait bien, il était entrouvert, mais bon. Genre, on trouve rien, on trouve trois bouquins politiques, c'est pas assez. C'est un peu chiant. Bon, vas-y, on a un artificier, on va prendre ce qu'il zone un peu chez lui et on va poser ça gentiment, bien étalé sur la table, comme si c'était un truc en préparation. Et tu fais, non, mais gros, tu viens de le récupérer dans une caisse qui traînait dans un coin, au milieu de trucs de plomberie et d'autres. Enfin, c'était un peu grossier, quoi, mais vu qu'il n'y a rien, il faut créer de la matière, quoi.
Ils ont quand même pris en photo et ajouté au dossier, du coup, ce montage qu'ils ont fait.
Explosif. Cible. Attentat. Terrorisme.
Donc on revient sur la problématique d'avoir accès aux dossiers, etc. Pendant des mois, mes avocates me demandaient qu'est-ce que c'était que ce pipe bomb, parce qu'ils appelaient ça un pipe bomb dans leur truc. Je fais, mais je sais pas de quoi tu parles. Enfin, je vois pas. Jusqu'au jour où j'ai eu accès à la photo, je fais, mais c'est un meuble en kit dedans, c'est, tu sais, les tubes pour faire des meubles style un peu plomberie. Ouais. C'était ça. Montrer qu'en fait des trucs banals comme ça, ça met des mois à y avoir accès. Et du coup, toi, tu psychotes parce que tu dis de quoi on me parle. On me reproche des trucs en fait qui ne sont pas. Tu comprends pas les choses. Tu psychotes sur des choses. Et quand t'as enfin accès au dossier, tu fais pff, c'est de la merde. Enfin, faut appeler un chat.
Les composants entrant dans la fabrication d'explosifs ont également été saisis, et cela en région parisienne. Hey, don't you think it's strange?
Sort de la maison, ils te mettent une cagoule blanche sur la tête avec un tissu qui fait on voit un peu les ombres, mais on voit rien. Soi-disant pour te protéger, que les voisins, etc., te voient pas. Ils te la laissent dans la voiture, enfin, tout le long, pendant les 1 heure de trajet jusqu'à la DGSI. Et cette camisole, c'est pareil, enfin, c'est encore un moyen pour te terroriser et te mettre en état de choc, parce que tout le temps de la perquisition, on était menotté. Et là, c'est carrément une camisole qui te bloque les bras le long du corps avec des sangles. Et donc, t'es vraiment complètement entravé, quoi. Moi, j'ai trouvé ça ultra violent, cette histoire de camisole. On l'a découvert après, dans le dossier, ça a été le cas pour toutes les personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. On saura donc que c'est à différents endroits en France et que tout a eu lieu à 6h du matin, en même temps. Grosse équipe mobilisée dans à peu près 5 ou 6 lieux dans toute la France. Après les perquisitions, ils ont rapatrié à Paris tout le monde, et donc certains en avion, en train...
Il faut savoir que nous, les conditions qu'on a eues, cagoulées et camisoles, étaient les mêmes pour les autres. Donc eux ont vécu la même chose, mais en train et en avion. Donc à la vue du public, enfin, c'est un peu de l'humiliation ultime. C'est fait vraiment la bête de foire. Nous, entre guillemets, on a eu la chance. On a fait maison, voiture, cellule. Eux, ils ont fait maison, train, voiture, avion. Enfin, c'est... Laisse tomber l'enfer d'avoir une cagoule sur la tête pendant des heures et des heures. Enfin, je ne veux même pas me mettre à leur place pour ça, quoi. Ça doit être horrible.
novembre 2008. Une dizaine de personnes est arrêtée ce matin-là au village de Tarnac en Corrèze et ailleurs en France.
2008, le village de Tarnac se réveille avec l'interpellation de 9 de ses résidents, des militants proches de l'ultra-gauche. Ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le sabotage.
Dans l'actualité ce soir, une vague d'arrestations après les actes de vandalisme.
Mais où est passé le coupa qui avait surgi sur nos écrans il y a 10 ans?
150 policiers cagoulés. Des hommes de l'antiterrorisme.
Un lieu de sabotage,
le village
où devait passer un train transportant des déchets nucléaires. Ils ont toujours nié les faits reprochés, mais les meufs de Tarnac sont mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes.
Ce qui a précipité les arrestations, c'est un sabotage commis 4 jours plus tôt sur une ligne TGV. Les personnes qui sont arrêtées sont accusées de faire partie de la mouvance anarcho-autonome. Elles seront mises en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.
Le 28 mai 2009, Julien Coupa est le dernier.
Militant d'ultra-gauche ou anarchiste.
Voici Julien Coupa.
Le cerveau du groupe Julien est originaire du 16e.
Il est arrêté avec ses principaux lieutenants.
Désigné leader d'un groupe terroriste, organisateur du sabotage.
Le 11 novembre 2008, dans un village de la Corrèze, a lieu une arrestation filmée par l'œil avide des caméras de télé. Et pour cause, les flics ont sorti les grands moyens. Près de 150 policiers cagoulés, l'hélico, plusieurs lieux perquisitionnés et 9 personnes placées en garde à vue. Il s'agit de la désormais célèbre affaire Tarnac.
Les 9 personnes embarquées sont soupçonnées d'avoir posé des crochets pour arracher des caténaires et stopper des TGV lors de leur passage dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008 dans l'Oise, Lyon et la Seine-et-Marne, provoquant un joli bazar et des milliers de voyageurs et voyageuses en galère. Mais lorsqu'on les arrête en 2008, c'est sous le coup de l'antiterror.
On apprendra que le groupe était placé sous surveillance depuis la présence du prétendu leader charismatique Julien Coupa et de sa compagne Yildune Levy à une réunion d'anarchistes en janvier 2008 à New York et leur passage clandestin de la frontière américo-canadienne. On parle de policiers britanniques infiltrés, de militants d'extrême gauche allemande, grecque ou italien et de manifs violentes lors de sommets internationaux. Avant même la fin des perquises, Michel Alliot-Marty, alors ministre de l'Intérieur, parle d'ultra-gauche et de mouvance anarcho-autonome et dénonce des risques de résurgence violente de l'extrême-gauche radicale.
À l'issue de leur garde à vue, 9 personnes sont mises en examen pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. 5 sont emprisonnées.
Alors au début c'est un peu flou, faut un peu avouer que c'est pas très très clair pour les personnes qui se font arrêter. Assez vite on apprend le terme terroriste, mais donc personne comprend. Et en fait c'est les perquisitions ajoutées, parce qu'on découvrira plus tard être carrément le, on peut dire le roman de la DGSI.
La construction policière.
Ouais, la construction policière
du dossier.
Qui dit que les inculpés voulaient s'en prendre aux forces de l'ordre, etc. On découvre avec les mois qui passent que les gens ne se connaissent pas tous et toutes, qu'en fait ça tourne essentiellement autour d'une personne, qui sera nommée plus tard Libreflo, qui est revenue du Rojava pour avoir combattu Daesh aux côtés des Kurdes, et soutenue par la coalition internationale. Et en fait tout un dossier s'est monté autour de lui pour en fait monter un scénario de terrorisme. On sait que Libreflo a été tracé par la DGSI, Donc ça, ça fait aucun doute. Mais ce qui est pas très très clair, c'est à partir de quand et pourquoi d'autres inculpés, dont moi, ont aussi été suivis. En fait, il y a une grosse partie d'inconnus. On a une date de début de procédure, à partir de telle date, ceci, cela. Mais il y a tout le avant où c'est clairement du off. Et on ne sait pas qui, quoi, comment, pourquoi. Mais ce qui en est très vite ressorti avec le temps et l'étude du dossier. Parce que bon, ça, on le redira plus tard, mais le dossier, pour beaucoup, on l'a eu très, très tardivement, voire presque un an après. Dans le contexte terroriste, tout est de l'exception. On n'est plus dans le droit commun. La dernière affaire, c'était 10 ans avant. Tout le monde est largué. Clairement, tout le monde est largué et tout le monde marche sur des œufs. Donc, on peine à avoir les informations, on peine à comprendre les tenants et les aboutissants. Et par-dessus ça, il y a toutes les parano qui s'installent, qui vont avec une accusation terro, qui fait que tout le monde a peur, ne serait-ce que d'allumer son téléphone, de juste prendre des nouvelles. Et donc il y a un flou. Et vu que les inculpés ne se connaissent pas entre eux, eh ben ça fait que on est dans le flou vraiment pendant des mois et des mois et des mois et des mois. En fait, là j'ai parlé que pour ma part, mais pour ma part, le début de compréhension des tenants et aboutissants s'est fait un an, peut-être un an et demi après, à dire ah ok, je cerne vraiment l'envers du décor. Je sais maintenant, je comprends pourquoi on s'est fait arrêter, quelles sont les intentions derrière, etc. Mais sur le moment, t'es largué. Enfin, faut appeler un chat un chat. Donc la DGSI fait une enquête préliminaire. Pourquoi ? On ne sait pas sur nous. À partir de là, elle file son dossier au parquet national antiterroriste, qui se saisit de l'affaire et mandate la DGSI pour nous surveiller. C'est très très objectif encore.
À partir du 7 février 2020, le PNAT, le parquet national antiterroriste, est saisi. Et à partir de là, en fait, toutes les demandes qui sont faites dans l'enquête apparaissent, nous, dans le dossier. Donc, en fait, nous, le dossier commence à cette date du 7 février 2020. Et à partir de là, à chaque fois qu'il y a une géolocalisation demandée, une balise GPS ou des recherches sur quelqu'un, ça apparaît. Il y a à chaque fois un procès-verbal qui est établi. Mais avant ça, bien sûr, on n'a accès à rien. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans les notes blanches. Et à partir de là, bah le dossier commence avec tous les procès-verbaux. Et c'est ce qui nous a permis, quelques années plus tard, de connaître un peu l'étendue des recherches, du fichage, de tout ce que la DGSI, quasiment un an, de toutes les recherches qui ont été faites sur les personnes.
Officiellement, le dossier commence avec l'enquête du PNAT. Ce qui est assez paradoxal, tu commences une enquête et t'as déjà des micros qui sont déjà tous posés depuis longtemps, des filatures qui sont déjà instaurées. En fait, tu débutes quelque chose qui est censé débuter, mais t'as déjà tout. C'est bon, ça, on notera l'ironie de la situation. Quoi. Alors, il y a eu des poses de micro dans des véhicules, suivis géolocalisés, suivis en direct, parce qu'on a des photos qu'on est suivis dans la rue.
Des filatures.
Des filatures, ouais. Moi, il y a des photos de moi où je suis en train de sortir mes chiens. T'hallucines, enfin bref. Un peu tous les moyens possibles et imaginables. Bon, après, forcément, les habituels de suivi téléphonique, des trucs traditionnels, mais dont la pose de micro, filature poussée et IMSI catching, des choses comme ça.
Concernant les téléphones, donc il y a les FADET. En gros, une fois qu'ils ont réussi à affilier à une personne un numéro de téléphone, les FADET, c'est tous les numéros qu'on a composés, donc ceux qui reviennent le plus souvent. Ça leur permet de voir avec qui on communique le plus. Et donc ensuite, ces personnes avec qui on communique le plus sont elles aussi mises sur écoute, etc. Donc en fait, ça fait tout un espèce de réseau pieuvre où ils établissent des connexions entre les gens. Et quand ils n'arrivent pas à filer un numéro de téléphone à une personne, c'est là où ils utilisent l'IMSI catching. Donc l'IMSI catching, c'est une antenne relais, je crois qu'ils peuvent le mettre dans un sac à dos ou dans un véhicule. Et quand ils suivent quelqu'un en filature, tout simplement, ils l'ont avec eux, et donc si on a un téléphone avec soi, ça borne automatiquement sur cette antenne relais qu'est l'IMSI catching. Ça leur permet de pouvoir dire bon bah cette personne, on n'arrivait pas à savoir quel numéro elle avait, est-ce qu'elle avait acheté une carte SIM ou je sais pas quoi, et donc du coup paf, ils peuvent connaître le numéro. Pareil dans un lieu, s'ils veulent surveiller par exemple un lieu, un squat ou un lieu de réunion ou quoi, ils mettent un IMSI catching devant le bâtiment et ça leur permet de savoir toutes les personnes à l'intérieur qui bornent avec un téléphone. Là, on parle de 2020, on est en 2025 aujourd'hui. Peut-être qu'il y a encore d'autres techniques, mais en tout cas, il y a 5 ans déjà, ça allait assez loin et ça leur a permis assez vite de connaître toutes les connexions, interactions entre pas mal de personnes.
Pour le moment, les autorités ont ordre de ne pas nous parler. Le procureur a missionné la police judiciaire sur l'enquête. Une revendication est arrivée par courriel chez nos confrères du Populaire du Centre. Pêle-mêle, elle parle d'oiseaux tués, mais surtout de compteurs Linky, de nucléaire et de sabotage, en donnant la définition.
Le 15 juin 2021, les keufs déboulaient en grand nombre dans 6 lieux différents de Haute-Vienne et de Creuse. Une quinzaine de personnes subissaient alors des braquages à main armée, perquisitions ou interrogatoires de la part de dizaines de flics suréquipés, parmi lesquels la SDAT, sous direction de l'antiterrorisme, ou PPSIJ, peloton spécial d'intervention de la gendarmerie. Dans les médias, on apprend alors que l'enquête est liée à des dégradations matérielles ne mettant pas en danger les vies humaines, l'incendie de véhicule Enedis en janvier 2020 et l'incendie d'antennes de télé, radio, téléphonie à Car, au sud de Limoges, en janvier 2021.
Les perquisitions sont longues et minutieuses. Elles ont lieu sous statut de témoin et de témoin assisté, avec des fouilles intégrales, des maisons, des saisies de matériel informatique, des prises de notes sur les différents livres politiques et autres documents militants, des prises d'ADN et puis des interrogatoires. La police débarque chez des gens suspectés de rien pour ficher leurs lectures et leurs empreintes génétiques. Le coup de pression vise alors l'ensemble du milieu militant local, parmi lesquels une chorale militante de Limoges et le site mutu local, labog.info. Parmi les personnes arrêtées, nombre d'entre elles feront plusieurs jours de garde à vue et certaines sortiront avec plus d'un an de contrôle judiciaire. Le 19 et le 20 mars prochain, le procès de l'affaire dite du 15 juin se tiendra à Limoges pour les inculpés de l'affaire.
Sur les ondes de Radio Canu, et nous parlions de la question de l'association de malfaiteurs terroristes avec les interventions de Clo et Zwing. C'est une première partie d'un retour radiophonique sur l'affaire en vue du procès en appel qui se tiendra au printemps 2026.
De la garde à vue en antiterro, donc on est au 4e sous-sol de la DGSI à Levallois-Perret, qui a un couloir avec une dizaine de cellules, toutes insonorisées les unes des autres, avec une grosse porte vitrée où on n'entend vraiment rien de ce qui se passe, ni dans les cellules d'à côté, ni dans le couloir. Il y a des néons blancs quasiment 24 sur 24, je crois que la nuit ça s'éteint un peu, mais il y a quand même encore de la lumière. Il fait très froid, il y a une caméra, parce qu'ils m'ont ramené sur une autre perquise. Puis je suis revenue et entre-temps j'avais demandé un pull avec une capuche et donc je mettais sous ma tête sous la capuche. Et en fait, dès que je mettais la tête sous la capuche, ils venaient me voir en me disant sur la vidéo, on voit que, enfin, il faut enlever la tête de la capuche, etc. Donc ça veut dire que t'es vraiment surveillé, quoi. Enfin, regardé en direct. Et en fait, les heures passent, on n'a aucune notion du temps. Donc dès l'arrivée, le soir même, on est tous auditionnés, ça dure, les auditions durent longtemps. Au moment de la première audition, pour le coup, moi par exemple, j'avais pas mangé depuis 36 heures et à peine bu de l'eau. Donc on est dans des conditions où vraiment, on est vraiment au bout de sa vie, quoi. Et même sur les 4 jours, je dirais qu'au niveau des repas, vraiment on mange très peu. Vraiment des notions du temps complètement déphasées. À des moments t'essayes de dormir, mais en fait ils voient sur les vidéos que t'es en train de t'endormir, donc paf, ils viennent te chercher pour te refaire une audition. T'essayes de dormir un peu, te reposer, et ils viennent te chercher. T'es interrogé quand même plusieurs fois par jour. T'es assez malmené psychologiquement quand même, je dirais. Et le fait, voilà, des lumières, de insonoriser, de t'es coupé dans un espèce de monde parallèle. Pas très cool.
Pour la notion du temps, c'est un peu la même. Les 4 jours, c'est juste une journée qui ne s'arrête jamais. Déjà, quand j'arrive, bah, forcément, cagoule sur la tête. À ce moment-là, j'ai plus des perceptions de son. J'ai pas l'image, j'ai que le son, donc je me concentre vachement sur ce que j'entends. Je sors d'une voiture, je passe une porte. Je comprends que je suis tout de suite dans des bureaux parce que j'entends des bruits de clavier, j'entends du brouhaha de gens qui sont dans un bureau, comme un peu un open space. Et là, j'ai vraiment le sentiment genre que je suis un trophée qui traverse une pièce. Enfin, à ce moment-là, je vois pas, mais je sens que tous les regards sont portés sur moi et je retraverse une porte. Et assez vite, on me met dans une petite pièce où là, on m'enlève la cagoule, on prend mes effets personnels et on me met tout de suite dans une cellule en face de cette petite pièce. Et à partir de là, c'est vraiment le temps qui n'existe plus, quoi. T'as une lumière constamment, comme elle dit, t'as des rideaux sur la cellule. Donc moi, sur le moment, je suis persuadé d'être dans les cellules du tribunal de grande instance de Paris. Enfin, la config de la cellule me fait penser à ça. Donc je me dis, bah, je suis en dessous du tribunal, donc je vais passer là au tribunal, et puis bah, ça va s'arranger parce qu'il n'y a rien. En gros, dans ma tête, je vais aller dans 24 heures, 48 heures, je suis dehors, grand max, et on n'en parle plus, quoi. Bon, c'est une journée sans fin. Chaque inculpé est auditionné par le flic qui a géré son dossier. Donc moi, celui qui m'interroge, en fait, c'est le gars qui connaît ma vie par cœur, qui s'est focalisé sur moi. J'aimerais dire que l'interrogatoire, c'est un peu, je vais pas dire standard, mais ça commence gentiment avec des questions un peu banales, très orienté politiquement dès le début. Qu'est-ce que je pense des gilets jaunes, de Macron, de ceci, de cela. Donc, moi, à ce moment-là, dans ma tête, je fais, bah, ça raccorde encore avec les manifs. Enfin, t'acceptes pas encore ce truc de terreau, t'es en mode, bon, bah, il y a vraiment ce coup de, parce que j'ai fait une manif et qu'ils doivent me confondre avec quelqu'un d'autre et qu'il y a eu un truc de fou qui s'est passé. Mais du mal à comprendre. Et par la suite, là, je comprends que justement, c'est lié aux copains, enfin, au fil des interrogatoires, que c'est lié aux copains Libreflow. Mais encore merci à mes avocates. Vu que tu gardes le silence, du coup, les questions te font plus apprendre de choses que ce que tu leur en donnes, en fait. Mais on reste encore sur des questions, enfin, pour me concernant, assez ballot, quoi. Enfin, pas ballot, mais ça va pas tout de suite dans mon profondeur.
En tout cas, au début, j'ai eu une avocate commis d'office. La spécificité en antiterro, c'est qu'on peut la voir ou le voir, son avocat, une seule fois par jour, le matin. Donc là, pour le coup, comme les premières auditions se font le soir, bah, c'est juste avant la première audition, pendant environ 20 minutes, je dirais. Et après, s'il y a plusieurs auditions qui se suivent dans la journée, on ne peut pas avoir de nouveau un entretien, et même si on change d'avocat. Donc moi, ça a été le cas après la deuxième audition. J'ai demandé à avoir... une autre avocate qui avait été choisie, là, et pas commis d'office. Et la DGSI a bien insisté à me dire que, du coup, attention, déjà, je risquais d'avoir plusieurs auditions sans avocate, parce que ça allait être compliqué, le temps de la faire venir, etc. Ce qui était faux, en fait, parce qu'elle est arrivée très vite. Et par contre, j'ai pas pu m'entretenir. Donc voilà, il y a vraiment juste cet entretien qui est assez rapide, qui est derrière une vitre, genre un hygiaphone, dans une pièce où on se dit « Oula, mais c'est sûr, il y a des micros quelque part dans cette pièce ». Et après, pas possible de recommuniquer, et même pendant les auditions avec les enquêteurs, l'avocat n'a pas le droit de prendre la parole, sauf à la toute fin pour dire s'il a des remarques, ou pour dire des choses genre « Je pense que mon client a besoin de manger » ou quelque chose comme ça, mais pas possible d'intervenir sur les questions posées ou de parler à la personne qui est alors en garde à vue. Et donc ça, c'est assez difficile, parce qu'en fait, on a un avocat, mais sur le moment, il n'y a pas de communication possible, donc c'est assez compliqué.
Pareil, première avocate. Déjà, elle se tutoie avec les agents, ils se connaissent par leur prénom. Bon, je ne me mets pas à l'instinct genre « Ah, ça pue », mais ça me tique, je fais. Après, elle fait « Bon, les avocats qui agissent régulièrement dans un commissariat, pourquoi pas, quoi ?» Mais ça me tique quand même. Et assez vite, j'ai fait, mais il y a des gens qui sortent de ce brebis et tout. Elle me fait, ah, moi j'en ai vu qu'un, une fois, qui est sorti. Mais généralement, ça se finit mal. Mais bon, pour que ça se finisse bien, faut pas hésiter à parler. Elle me dit, cash, faut que tu parles. Bon. Toi, tu sais pas dans quel brebis t'es. T'es en mode, ok, tu fais confiance, mais du coup, un peu pas confiance. C'est un peu bizarre. Deuxième audition, justement, là, j'ai mon avocate qui arrive. Et je me retrouve dans la fameuse pièce avec le plexi. Parce que la première, j'ai jamais vu un plexiglas. Je l'ai vu dans les couloirs, en mode normal. Je me demande même des moments si c'est pas carrément une flic qui se fait passer pour une avocate. J'en suis à ce stade-là, parce que tu comprends pas ce qu'il en est, quoi. On est à la DGSI, on n'est pas sûr qu'il y ait le secret professionnel, donc de toute façon, tu vas fermer ta gueule, tu vas garder le silence ici, tout le temps, quoi qu'il arrive, en audition, et même là, mais je commence à essayer de parler, j'essaie de faire, mais je comprends pas, machin et tout. Elle me faisait comprendre, ta gueule, même ici, ta gueule, c'est... On fait ce qu'on peut et juste tais-toi. C'était un peu compliqué à comprendre sur le moment, enfin toujours dans l'état de sidération, de choc. Mais je vais me sortir de ce bourbier vite parce que je comprends pas pourquoi je suis là. Et bon, c'est un réflexe à avoir, il faut avoir ce réflexe, on le répétera jamais assez. Donc ouais, et du coup pas mal de off. Donc t'as les auditions, les coups des caméras qui s'éteignent, on te parle, etc. Moi j'ai pas eu trop d'intimidation devant mon avocate, enfin pas de mémoire, je pense que... Mais c'était plutôt dans les couloirs et dans ma cellule. Typiquement à un moment, il y en a un qui vient me voir, qui était pas un enquêteur, qui était, on va dire, l'homme à tout faire, enfin qui s'occupait de tous les menus paperasse, des petits trucs administratifs, qui vient me voir, qui fait « Est-ce que je peux prendre dans ta fouille de l'argent pour qu'on aille acheter un médicament pour ta copine ?» Bah oui. Et puis il me dit « Ouais, mais tu sais, machin... » Enfin, en essayant d'être gentil pour t'amener à dire « Regarde, on n'est pas méchant, etc. » Et c'est constamment que du ça, en fait. C'est t'as l'audition, qui est des fois même violente, comment ça se passe, et t'as le off où « Oui, mais regarde, ah, t'es dans un brumier. » C'est un peu le chaud et le froid constamment. Genre. On te met la pression, t'es dans la merde. T'es vraiment dans la merde, t'as intérêt de parler si tu veux te sortir de là. T'as intérêt d'enterrer ton pote, quoi. Et puis... À côté, non, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas, on se joue à ce jeu-là constamment, quoi.
En fait, bon, nous deux, déjà, on sait qu'on s'est fait arrêter en même temps. On comprend assez vite qu'on est plusieurs dans le couloir, parce qu'il y a le premier jour, il y a les chaussures devant chaque cellule, donc on comprend qu'on est plusieurs. On sait pas qui sont les autres, mais en tout cas, on comprend qu'on est plusieurs. Et en tout cas, ils jouent assez vite sur, quand on est deux, à savoir qu'il y a une autre personne qui s'est fait arrêter, l'un ou l'autre est en train de parler. Donc toi aussi tu devrais parler, parce que donc ils utilisent beaucoup les biais de attention, il est en train de craquer, pourquoi toi tu craques pas, c'est quand même bizarre. Ils l'ont utilisé pour tous, et il y a aussi du off pendant les auditions. Je pensais que tout était retranscrit, et c'est en relisant bien plus tard, plus d'un an plus tard, d'avoir accès au dossier, qu'ils ont tout de suite chargé le pote Libreflow. À partir de la deuxième ou troisième audition, je dirais que c'est très très chargé sur lui, en disant que ils l'ont arrêté le doigt sur la gâchette. C'était le moment où j'avais déjà gardé le silence depuis un moment, mais je pensais que ça faisait partie de ce qui était écrit dans le procès verbal, et pas du tout, parce que c'est complètement faux, et que du coup ils n'ont pas pu l'écrire dans le procès verbal, donc ça faisait partie du off. Donc il y a du off pendant les auditions, qui est faux, et voilà, ils balancent des trucs pour essayer de voir comment tu réagis, et il y a ce off aussi quand les avocats sont pas là. Et moi notamment, ils m'avaient mis un peu la pression en me disant t'as décidé de garder le silence, c'est pas du tout bon pour toi, tu seras déféré. Et en fait, je savais pas ce que ça voulait dire, déférer. Donc d'un côté, je sais pas si c'est pas plus mal que je sache pas, mais du coup, je me suis dit, je sais pas ce que c'est. Je vais pas demander, et voilà, je serais peut-être déféré. Bon, voilà, pour le coup, après j'ai compris ce que c'était, et je l'ai pas été. Mais voilà, en fait, ils sont tout le temps dans un truc de menace, et de, on joue sur la corde sensible, on sait qu'un tel a une relation avec un tel, ou qu'ils sont très potes, ou ils jouent vraiment là-dessus. Et en fait, ça, ajouté à l'état de sidération, à l'état de choc, à la gravité du chef d'accusation, vraiment ça te retourne le cerveau. C'est vraiment très très dur.
Il y a ce moment où on te montre les photos des co-inculpés. Et du coup, à ce moment-là, je me rends compte que je ne connais personne, par ma compagne et Libreflow. Et c'est ce genre de moment, enfin moi personnellement, qui m'ont rassuré, parce que je me suis dit, bon, ils sont en train de me dire des dingueries, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il s'est rien passé. Mais à ce moment-là, tu le sais pas qu'il s'est rien passé. Mais il y a que des gens que je ne connais pas. Et du coup, tu te dis, bon, en fait, ça te rassure un peu, c'est en mode, enfin, tu n'as pas encore l'envers du décor qu'en fait, il n'y a pas besoin de connaître les gens pour être dans un bourbier d'association de malfaiteurs. Mais toi, sur le moment, t'es en mode, bon, bah, ça va aller. Parce qu'en fait, je connais pas ces gens-là. Je suis clean. Je peux prouver que je suis clean. Ça va couler de source. Enfin, t'as encore un petit peu ce truc un peu niais, te dire, je vais pas dire foi en la justice, mais dire foi en la vérité, genre bah il peut y avoir que ce qui y est, et vu qu'il y a rien, bah il peut y avoir que du rien. Bon, bah tu déchantes très très vite. Ça c'est un peu bon, la journée sans fin, jusqu'à un moment je me retrouve pareil dans une pièce. Où là, il y a tous les flics. Je suis vraiment comme si c'était un grand open space avec une grande table ronde. Il y a plein de flics, un vidéo proche. Et là, je vois le juge d'instruction, mais je comprends bien plus tard que c'est lui le juge d'instruction. Sur le coup, je comprends pas du tout ce qui se passe. Je me dis, c'est qui ce gars-là qui me parle? Je comprends rien de ce qu'il me dit. Enfin, j'ai passé, je crois, les 4 jours de la DGSI, plus les 3 premiers jours de détention. Ça fait 7 jours, 3 quarts du temps en larmes à pas comprendre ce qui se passe. Enfin, mal dormir, mal manger, en larmes. Enfin, tu ne comprends pas ce qui se passe. Bref. Ton cerveau. Je me retrouve avec plein de flics autour d'une table et encore en mode le trophée, genre devant moi le grand écran avec ce que j'apprendrai plus tard avec le juge d'instruction et plein de flics autour d'une table.
Là, c'était la prolongation de la garde à vue. En fait, la garde à vue dure 96 heures en antiterro et au bout de 48 heures, le juge d'instruction, s'il veut la prolonger, il est obligé de faire une visio pour te dire en direct qu'il prolonge ta garde à vue et pour l'amener du coup à 96 heures. Donc, on est tous passés devant cette visio un à un. Voilà, donc c'était à mi-parcours, j'allais dire, mais c'est un peu ça. Pas fait tout à fait 96 heures. Je crois qu'il s'était gardé une douzaine d'heures. Il m'avait dit, attention, du coup, on peut trop arrêter dans ces jours-ci parce qu'il te manque voilà, une douzaine d'heures qui sont un peu suspendues au-dessus de ta tête. Donc en tout cas, il m'amène dans la pièce de départ, là où on avait laissé nos genre un manteau et un sac et des chaussures. Et ils se posent la question entre eux, ils discutent en disant mais comment on fait? Parce que du coup, on l'a fait rentrer avec une cagoule. Ce serait bizarre de la faire ressortir par le parking avec toutes les plaques d'immatriculation. Mais en même temps, si on la fait sortir par les bureaux, enfin voilà, ils discutent entre eux devant moi et ils savent pas trop comment faire. Je leur dis mais remettez-moi la cagoule sur la tête. Enfin, de toute façon, je m'en fous au point que j'en suis. Ça a l'air compliqué, donc voilà, refaites pareil. Mettez-moi la cagoule sur la tête dans une voiture et ce sera très comme à l'aller et voilà. Et donc c'est ce qu'ils ont fait et donc ils me mettent dans une voiture qui est la voiture perso de l'OPJ qui m'a interrogé pendant 4 jours et il m'a lâché devant le métro de Levallois-Perret. Ils m'ont enlevé la cagoule de la tête et ils m'ont déboulé comme ça devant le métro avec mon sac où j'avais quand même, je crois, heureusement une carte bleue pour avoir acheté un ticket de métro et rentrer. Mais voilà, enfin du coup c'est vraiment, j'ai été lâché comme ça en plein Levallois-Perret.
Μετά και ξαναψάχνω για παιχνίδια στο πατάρι. Ένα χρόνο μετά ακόμα σκανάρω το ταβάνι. Είναι η τέχνη μας ελπίδα προς το κράτικο τους φράχτη. Τα παιδιά γράφουν με άχτη κολλημένα μες στη λάσπη. Αυτή η γενιά γράφει θλιμμένη μουσική και παίζουν λόγοι. Φταίνει τοξικοί γονείς που την είδανε ψυχολόγοι. Δεν τα πρέπει που οι κάτω πρέπει βγάζουν στο κατόφλι. Και μαζεύουν σώματα, ψυχές, μυαλά μες στην απόχη. Μα σε στόχοι με στόχους να στοχεύουμε στα αστέρια. Αστέρια. Μαγκίδες και μελανιασμένα χέρια. Τι να πουν δύο σταγόνες. Μεγαλώσαμε στην ξέρα. Μεγάλο όνομα ακόμα δεν βάζω μυαλό πατέρα. Και στην πράξη αναμασάω κάτι ιστερογράφα που σου γράψα στα πρόθυρα. Μα τα είχες ξεχάσει. Αν δεν τα έχω γραφούσα θα τα είχα αναστενάξει. Αυτό είναι για τους φίλους μου που δεν ξύπνανε τάξη. Κι είναι τόσοι ψάχνουν άκρες, απασχόληση και στέγη. Κάτι να τους γεμίζει να μην φεύγει. Κοιτάνε απ' τα δωμάτια κλειδωμένοι. Ονειρεύονται μεθυσμένοι. Ζουνε για να μην πεθάνουνε στις πόλεις τους κυμμένοι.
Ensuite, le fameux déferment au tribunal. Et on arrive là au sous-sol du tribunal de grande instance. Donc porte de Clichy à Paris. Donc là je comprends qu'en fait déjà j'étais pas au tribunal mais dans les locaux de la DGSI, que les locaux de la DGSI ne sont pas sous le tribunal comme je pensais. On dirait il a fallu 4 jours pour percuter où est-ce que je suis. Là je te retranscris un peu ce qui m'a été retranscrit de mes avocates parce que j'ai plus l'ordre chronologique précis dans ma tête. Je sais que je suis dans l'accueil du tribunal où là je vois les co-inculpés, on est tous menottés avec un masque, avec tous les OPJ. Et je me souviens de ce moment où on m'a mis justement à côté de Libreflow et tous les autres en face de nous. Et genre vraiment, enfin moi j'ai le sentiment genre, tiens, on nous assoit de façon extrêmement précise, enfin pas pour rien. J'ai pas le sentiment genre je suis posé là pour être posé là, c'est le sentiment de on me met à côté de lui parce qu'il y a une raison, parce que je le connais. Et ils nous observent, nos réactions. Bon, nos réactions sont simples, on a tous les yeux rouges, on est tous au bout de notre vie, donc je vois le juge des libertés. Qui me pose une question pour moi, qu'est-ce que c'est le terrorisme? Je sais même plus ce que j'ai répondu, un truc genre, je crois que c'est des gens qui butent d'autres gens, enfin, genre, c'est enfin, vraiment le truc que de monsieur et madame tout le monde, en fait, parce que tu sais pas ce que c'est le terrorisme. Et sauf que je le vois, il faut le dire, en t-shirt déchiré et leggings, je suis habillé comme ça à ce moment-là. Ça a un peu son importance quand même, parce que on te présente devant des magistrats dans des conditions où t'es pas présentable, donc déjà, tu le veuilles ou non, tu renvoies une image à la personne qui va décider pour toi que une image biaisée, de facto. Et assez vite, je suis emmené à Fleury.
Γιαγιά μου μου είχε πει αβέχτυπας δεν μεγαλώνεις. Κι όταν το συναίσθημα τροφή το κόβεις. Γι' αυτό έκανα τις εκδόρες τετράστιχα πληγές να μαλακώνεις. Όταν φεύγεις στην ομίχλη στο τετράδιο να τρυπώνεις. Μου μάθαν την επόνο στα αγρία ζώα της πόλης. Και την εντέχνη τα γραφίτια στη μεθόνη. Σε μάθα να είμαι εκεί να βάζω πλάτη όταν με σπρώχνεις. Να διαβάζω στα μάτια σου σαν τα βράδια σου κλειδώνεις. Νέα δεκαετία, ίδια προτεραιότητα. Να κόψω τον καφέ, τον τσιγάρο, την τοξικότητα. Μεγάλωνε δυο κύκλους, κλείστους. Κάτω από τα μάτια μου, τα μάτια σου φωτιά μέσα στο ψύχος. Κάνουνε συλλόγοι δικοί μου από συνταγές. Ξέρουν από τους γιατρούς της πόλης τις οικοδομές. Δακώνουνε όταν φυλάνε και έχουν προσμονές. Πληρώνουνε την ηθική τους με αναστολές. Γράφω με αυτούς που παλεύουνε τις ψυχώσεις. Που φάγανε τα μούτρα τους στις πτώσεις. Ο χρόνος παίζει θέατρο μπροστά μας και κλέβει τις εντυπώσεις. Και στο έκρεμες της ψυχοσύνθεσης μας θα λατώσεις. Κι όταν ο πόλεμος λήξει θα σταματήσουμε. Θα αφήσουμε στην άκρη τα μολύβια να το ζήσουμε. Κι όταν ο πόλεμος λήξει θα ξεκινήσουμε. Να ζούμε όσα δεν ζήσαμε τις μέρες που συγγίσαμε. Τα σκουπίδια που φραγκάρουν τις σκούπες στις γειτονιές μας. Στα α4 ξύνουμε τις πληγές μας. Τρεφόμαστε απ' τις ανασφάλειές μας. Μόνοι μαγχωμένες οικογένειες. Τα σκουπίδια που φραγκάρουν τις σκούπες στις γειτονιές μας. Στα α4 ξύνουμε τις πληγές μας. Τρεφόμαστε απ' τις ανασφάλειές μας. Μόνοι μαγχωμένες οικογένειές μας.
J'ai passé 11 mois à Fleury, passé déjà 3 jours dans le bâtiment central. Alors je pense en observation. Je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais je pense que c'est en observation parce que j'étais complètement à la ramasse largué. Vu que c'est là ensuite où on t'emmène faire les soins kinés, etc., et que tu apprends qu'on met un peu les gens qui sont nommés fous, enfin en prison, par déduction, je me suis dit avec les mois, j'étais certainement en observation ces 3 premiers jours. Ensuite, j'ai revu le fameux juge de liberté, donc avec des vêtements, confirmé ma détention. Et là, je suis parti au bâtiment D4. Donc au quartier des arrivants au D4, donc 14 jours. Ensuite, je suis emmené au 4e étage du D4. J'ai un carton rouge sur la porte, un carton rouge avec écrit 2 plus 1. Et je comprends pas trop ce que c'est. Et j'apprends en fait que pour mes déplacements, il me faut 2 matons et un gradé. Je suis DPS, détenu particulièrement surveillé. Donc là, autant te dire que en gros, t'as un gros truc genre détenu dangereux. Et puis les matons te font comprendre, t'es un détenu dangereux dont il faut se méfier. Mes déplacements au début étaient très très compliqués, toujours entouré de matons qui te prennent de haut, qui sont sur les dents, te regardant, t'observant, jusqu'au jour où il y a une matonne qui, au niveau des gamelles, fait « Mais tu manges du porc ?»« Bah ouais, pourquoi ?» Elle fait « Ah bon, j'aurais pas pensé. » Et là, je percute que, en fait, eux, ils ont que l'intitulé, ils ont pas le contexte. En fait, il y a les gradés qui, par la force des choses, t'apprends qu'ils ont le contexte. Mais le simple ou la simple matone n'a pas le contexte, n'a que l'intitulé. Et du coup, bah ouais, terroriste pour eux, je suis un Daesh en fait, clairement. Et ils tombent des nues quand ils comprennent que je ne suis pas un Daesh. Mais ça c'est avec le temps. Là, je passe 4 mois au D4. Les 2 premiers mois sont durs, où j'ai la tête à l'envers. Après, je prends mes habitudes. Enfin, tu commences à te faire à ta nouvelle cage. Enfin, tu prends tes habitudes, de promenade, les gens avec qui tu causes, tu joues aux cartes, etc. Et là, c'est toi, on me dit, ah, t'as le statut terro, t'es dans la merde, Assia Fleury, on va te faire tourner. Tous les 4 mois, ils vont te faire tourner. Généralement, les terros, on les fait changer de bâtiment. Ça loupe pas. Au bout de 4 mois, on me fait changer de bâtiment. J'arrive au D1, qui est historiquement le bâtiment des longues peines et des détenus durs. Et là, autre prison. Je découvre qu'en fait, dans une même prison, t'as plusieurs prisons. C'est pas du tout la même ambiance, pas du tout le même type de population carcérale. Le premier bâtiment, c'était assez jeune. C'était des trucs assez mineurs, des vols, du deal, etc. Là, je suis avec des gens qui ont commis des meurtres, des longues peines, avec des Daesh, avec d'autres types de terreaux. Ça, on va y revenir après. Très, très dur. Et matons durs qui me font la misère, mais dès le début. Genre, ça fait 3 jours que je suis au D1. On me suspend mes parloirs famille avocate pour des cacahuètes mangées en parloir avocat. Mais ça, on me le dit pas sur l'instant, mais dans une cellule d'attente. C'est une fois que mes avocats se sont barrés, que là, le chef parloir me fait « Bon, bah t'as bouffé en parloir, t'as pas respecté les restrictions Covid, on va te mettre en quatorzaine. » Donc, à savoir qu'à Fleury, pendant ce temps-là, en fait, pendant le Covid, la quatorzaine, en fait, était le nouveau terme pour dire isolement. Et on te mettait plus en isolement, ça, parce qu'il y avait pas assez de place. Ils mettaient les détenus en quatorzaine, donc ils les faisaient descendre au second étage, où t'es, bon, ça change pas, j'étais quand même seul en cellule, mais généralement ceux qui étaient en co-détenu, ils se retrouvaient seuls après la cellule, et tu retombes à une heure de promenade par jour, pas d'activité, bon, il n'y avait pas d'activité à ce moment-là, mais tu perds tout. C'est le juge d'instruction qui envoie un mail à la prison en disant bah, vous êtes Mimi, vous êtes sympa, mais moi je dois l'auditionner, donc il est hors de question qu'il ne voit pas ses avocates avant, parce qu'il y a quand même tout un truc juridique à respecter. Donc la prison me remet mes parloirs avocats, mais me laisse la suspension des parloirs famille. Ce qui est assez paradoxal, sachant que la problématique vient d'un parloir avocat. Donc pendant 2 mois, on ne s'est pas vu, truc comme ça. Quand ils m'ont changé de cellule, ils m'ont mis mes affaires en vrac dans les sacs, déchiré les photos de mes chiens, j'avais ma gamelle qui était renversée dans mon sac sur mes vêtements. On te met dans une cellule éclatée, donc vraiment, on te traite comme de la merde, quoi. Et le maton qui me met en quatorzaine, tout fier de me mettre en quatorzaine sans masque Covid. Et il y avait des nouveaux matons qui étaient là en apprentissage, ils disaient, mais si t'es pas content, tu peux te écrire une lettre à la direction avec un grand sourire, genre, je te pousse au bout. Très dur de garder son calme. Donc en gros, voilà, condition, le D1 a été très très dur les 7 mois qui ont suivi. Et d'ailleurs, à la fin, les gradés m'ont dit clairement, mais les détenus comme toi, les gens qui ont ton profil, on les pousse à bout au début pour voir leur réaction, pour les tester. Mais bon, coup de chance, je suis jamais tombé dans leur piège. Et vu que j'avais déjà l'épée de Damoclès terro sur la gueule, ça te fait filer droite en mode, ouais, le moindre rapport, ça te met dans la merde. Donc... ça va, là-dessus, j'ai pas eu de. J'étais assez malin pour pas tomber dans leur piège de provocation, quoi. On cherche à casser ta personne. C'est genre, bah, typiquement, je suis pas le seul à avoir vécu. La co-inculpée, elle est en justice pour ça. Mais on a tous et tout de suite des fouilles à nu après chaque parloir de famille. Donc en fait, on va dire, le peu de moments que t'as où tu respires un peu, je dis. Tu respires un peu parce que on a eu la certitude après, mais tu sais que tes parloirs sont sur écoute, vu que t'as le statut tarot. Enfin, tu t'en doutes, et il y a eu un rapport après comme quoi qu'il y avait rien, que suite aux écoutes dans les parloirs, il y avait rien à rajouter au dossier. Donc on a la certitude que c'est le cas. Donc on va dire le peu de moments où tu re-respires un peu, mais tu peux même pas te toucher parce qu'il y a un grand plexi. Parloir avocat, tu peux te toucher, hein, c'est le paradoxe. Mais parloir famille, c'est un grand plexi, tu peux pas te toucher. Et bah tout de suite dans la foulée, mise à nu, effet le chien, lève la jambe, lève l'autre jambe, tire la langue, écarte les fesses. Donc t'as ça constamment. Donc en fait, à la fin, t'as presque même plus envie d'aller au parloir. Ce que tu fais, moi, en fait, on va se regarder dans le blanc des yeux pendant 45 minutes, on va pas oser parler de la pluie et du beau temps parce qu'on va avoir peur qu'on nous reproche de parler de la pluie et du beau temps, et tout ça pour te retrouver à faire le chien derrière. Enfin, t'y vas à reculons, en fait. T'y vas parce que ça te sort de ta cellule, mais t'as même plus le goût d'y aller, en fait. Ça cherche à te casser psychologiquement sur ce point.
Je voulais juste refaire un petit point sur les différentes incarcérations qui a eu lieu dans cette affaire. Donc, 5 des 7 inculpés sont incarcérés dans 5 prisons différentes d'Île-de-France. Donc, il y a Fleury-Mérogis homme, Fleury-Mérogis femme, Bois d'Arcy, Fresnes et Oni. Bon, à savoir que Fresnes, c'est l'une des prisons les plus trash de la région parisienne, parce qu'elle est très vieille et tout. Voilà, donc il y a eu entre 5 et 16 mois en incarcération en prison, dont donc le camarade Libreflot qui a fait 16 mois à l'isolement. Donc l'isolement, pour rappel, c'est l'isolement total, c'est-à-dire que il est seul dans sa cellule 24/24 et l'heure de promenade qu'il a, elle est seule dans une cour grillagée avec des grillages au niveau du ciel. Et en fait, il a été reconnu par plein d'associations, etc., que c'est de la torture blanche et qu'il y a assez vite plein de problèmes au niveau de la santé qui apparaissent, dont voilà des problèmes de mémoire, des problèmes pour se concentrer, des problèmes même physiques. Tachycardie, plein de choses comme ça. Et donc en fait, plus l'isolement dure longtemps, plus les conséquences sur le corps sont dangereuses. Quand il a compris après 16 mois d'incarcération en isolement que l'État reconduisait encore via le garde des Sceaux son isolement pour encore plusieurs mois, il a décidé de se mettre en grève de la faim. Et après 35 jours, je crois, de grève de la faim, il a été libéré sous bracelet électronique. Voilà, il était vraiment... dans un état proche de la mort à ce moment-là, mais en tout cas il a été libéré à ce moment-là. « les contrôles judiciaires assez stricts. Donc ils ont été mis en place pour les deux qui sont pas allés en prison, et ils ont été mis en place aussi pour tous les autres à la suite de leur incarcération. Donc c'était des contrôles judiciaires très stricts, avec des pointages au début pour certains, je crois, deux fois par semaine. Et plus le temps passait, plus donc ça se réduisait un peu, une fois par semaine, puis une fois toutes les deux semaines, limité à des départements. Et donc si je dis pas de bêtises, en fait quasiment jusqu'au procès, en tout cas jusqu'à la fin de l'instruction, donc qui était fin 2022, début 2023, il y avait encore ces restrictions de département. Donc en fait, c'est même pour ceux qui sont sortis de prison, il y a encore ces obligations qui sont très strictes et qui t'empêchent d'aller là où tu veux, qui t'empêchent de rejoindre la vie que t'avais avant les arrestations, parce que en fait, t'as le droit à un département, mais qui est pas automatiquement le département là où t'habitais avant. Et puis pour ceux qui se connaissaient et qui avaient des amis en commun et qui vivaient dans la même ville, et bah l'obligation de vivre plus loin et loin de ses amis, voilà, enfin c'est vraiment des situations très compliquées.
Il y a même eu une situation aberrante, un co-inculpé qui avait le droit d'aller dans le département où résidait sa mère, si je dis pas de bêtises, mais n'avait pas le droit d'aller dans le département qui était sur le trajet. Enfin, il y a eu aussi des situations assez aberrantes avec ça, quoi.
Et donc depuis les arrestations, en tout cas, il y a eu cette interdiction de communiquer entre les co-inculpés, et qui est encore maintenue aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, ça complique toute solidarité, en fait, parce que ça veut dire que ce soit pour ceux qui se connaissaient avant ou même pour tous les co-inculpés, ils peuvent pas communiquer entre eux. Et en fait, ça, ben voilà, c'est hyper compliqué d'arriver à mettre. À mettre une solidarité en place et à pouvoir préparer sa défense avec le procès qui arrive, etc. Et c'était assez étonnant, enfin on reviendra plus tard sur le procès, mais que la juge dans les condamnations ajoute, alors que le parquet ne l'avait même pas demandé, que tout le temps du sursis, c'est-à-dire encore pendant 5 ans, que les co-inculpés ont encore l'interdiction de communiquer entre eux, enfin en fait c'est super long.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Radio Primitive.